بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا إخوان تصبرون على الحال وعلى تقليل الدروس في هذه الأيام والآونة، فكما يعلم البعض نحن نعمل والعمل كثر علينا، فأخذ من الوقف ما أخذ، والله المستعان. إن شاء الله on demande à tout le monde de faire preuve de patience et de persévérance vis-à-vis de la réduction des cours, car comme certains d'entre vous le savent, depuis quelque temps je travaille, et à cause du travail, mon temps est de plus en plus diminué. Wallah al-musta'an. Wa nahnu kama kararna dhalik liman qaruba aw ba'ud. ما نحب البقاء في مثل هذا البلد، والله والله يشهد على ما نقول. فبالتالي علينا أن نأخذ بعض الأسباب للخروج، والعمل إن شاء الله من ذلك. وكم سيكم كنسي نصاب، nous sommes ici contraints, mais on n'a pas envie de rester une minute de plus dans ce genre de climat, dans ce genre de pays. Et pour sortir, il faut faire les causes. Abdel Asbab, il fait partie des causes, le travail. Voilà, أقول أن أنه السبب الوحيد وأنه السبب الرئيسي، لا، فالأصل هو الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والقيام بطاعته، هذا هو أعظم الأسباب للخروج من ديار الكافرين وللهجرة. Je veux pas dire que le travail c'est la cause principal qui facilite la hijra, mais bien sûr il y a des causes bien plus grandes et bien plus efficaces que le travail, comme l'invocation d'Allah Azza wa Jal, le fait de revenir à Allah Azza wa Jal repentant, le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, le fait d'accomplir des œuvres pieuses, tout ça c'est bien plus fort et pertinent pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à son serviteur la sortie de terre de kufr. Lakin, ma'a dhalik, al-amal bil asbab liman qadir alayh amruhu tayyib. Cependant, le fait d'œuvrer avec certaines causes, plus ou moins matérielles, c'est une bonne chose. Falihada, n'chagalna hadhi l'ayyam عن بعض الدروس، ونحن ما نحب هذا، لكن ما نحب أن نجلس، وإن كنا على خير دعوة إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. لكن يعني العيش بين المسلمين لا يعدله شيء، والعيش بين ظهراني الكفار من أعظم الخطر على العبد في دينه وخلقه وفي أهله وفي أولاده. فلهذا أنا خائف على نفسي، وأخذت قرارا أني سأسعى كل سعي حتى أخرج في أقرب وقت، فلهذا انشغلت، ونسأل الله التوفيق والسداد. La vie en terre d'islam n'a pas d'équivalent. Tandis que la vie en terre de kufr, c'est d'une dangerosité énorme pour le croyant, que ce soit pour lui, que ce soit pour son comportement, que ce soit pour sa religion, que ce soit pour ses proches, pour ses enfants, c'est d'une dangerosité extrême. إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم كنا مستضعفين في الأرض. الآيات تعرفونها، لكن إذا طبقت علينا فما ندري ماذا نقول لله عز وجل. والله المستعان. فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته وعلى الخروج من تلك الدار الخبيثة. قلنا الله عز وجل كالله نفسلت لا سختي لسو جانب البي. وأنا حس الإخوة الذين هم هنا بالجمع بين عيش القلب وعيش يعني الجسد. Et enfin, je recommande à tous les frères ici présents et à ceux qui sont résidents dans ce genre de pays de regrouper entre la vie du cœur et la vie du corps. C'est-à-dire de regrouper les causes qui font vivre le cœur et les causes qui font vivre le corps. وأعظم ما يحيي القلوب كتاب الله، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأقوال وسير السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Et parmi les choses qui font vivre le cœur, il y a la plus grande chose qui fait vivre le cœur, c'est le Coran. Le Coran. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. هذا كتابنا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فانظروا الجن قدروا هذا القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا، يعني استمعوا بخشوع، استمعوا إليه. فهذا الكتاب كما وصفه سبحانه وتعالى نور يهدي به الله من يشاء. على كل حال، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ونعود إلى هذا الحديث الطيب العظيم القدر. Donc inshallah on revient sur le sujet de notre cours d'aujourd'hui. وعليكم السلام ورحمة الله. Portant sur ce très beau hadith, le hadith de man ya Rayan?
Umuzara.
Naam. Fa'akhadna aqwal al-nisa al-ya'ni al-muqaddima ala Umuzara. On a pris les paroles des femmes qui ont précédé la parole de Umm Zahra. Donc on a vu combien de paroles jusque-là ?
10.
Ahsantum. Tayyib. Qui peut nous dire, est-ce qu'il y avait plus de critiques dans ces paroles ? Ou il y avait plus d'éloges faits envers les maris ? Ou bien c'était à part égale ? Ah, bah, dis-le.
Il y avait plus de critiques selon Abba Abdillah. Ah, et toi non, plus de critiques. Plus de critiques. Hein.
Non.
Plus de critiques. Hein.
Je crois que c'est à peu près égal, on dirait. Je sais plus.
Non. Tu crois que c'est à peu près égal?
Les trois premières, ils ont dit. Non.
Khaled, tu départages lesquels?
Non, pour moi, il y a plus de critiques.
Il y a plus de critiques. Hein. Il y a plus de critiques. Tu reviens?
Il y a plus.
Les trois premières, elles ont critiqué leur mari. Hein. La première, mon mari, c'est un chameau. La deuxième, qu'est-ce qu'elle a ?
Pas égal, hein? Pas égal,
je crois. Je crois qu'il y a plus de critiques.
Il y a plus de critiques.
Mais on sait que la onzième, elle va dire du frère.
Les trois premières, elles ont critiqué.
La quatrième,
elle a fait l'éloge.
Elle a fait l'éloge.
La cinquième, elle a fait ?
Elle a fait l'éloge.
Elle a fait l'éloge.
La
sixième, elle a critiqué.
La septième,
elle a critiqué.
8,
9, 10, ils ont fait l'éloge.
Et la 11e fait l'éloge.
Donc ça fait 5, 5. C'est tout. Ça veut dire qu'il y a eu des critiques autant que d'éloges.
Ce n'est pas possible.
Pourquoi ce n'est pas possible?
Ils sont 10,
5, 5. Là, on parle des 10, des 10 premières. Sans rajouter la parole de Mouzar, on ne l'a pas vu, on va la voir aujourd'hui, Inch'Allah. Taïb, mais sur les 10, les 10 premières, et c'est par égal. Ça veut dire qu'il y en a qui ont fait l'éloge. Il y en a autant qui ont fait l'éloge, comme il y en a autant qui ont fait des critiques sur leur mari. Taïb. Taïb, on rappelle encore une fois, Ikhwan. L'un de l'Ikhwan, Yazhadoun. Tfadal. Yazhadoun an mithli hadhi al-durus, wa yaqulun. نحن نعلم وهذه ما في كبير طائلة كبير فائدة وهذا من لا يعرف بقيمة الدروس وبقيمة الكتب وبقيمة يعني المؤلفات وما إلى ذلك. Donc certains frères, ils peuvent prétendre que ce genre de cours, ils sont pas particulièrement utiles, ou qu'on peut s'en passer, ou autre parmi les interprétations qui sont critiquables. Car en vérité, ça, c'est des paroles de gens qui n'ont pas donné suffisamment d'importance à la science et aux écrits, aux livres. Là, on fait un livre, yani, quitte à un tasma'an. C'est un livre que tu ne vas peut-être pas entendre partout. C'est un auteur qui est plus ou moins peu connu, du moins dans nos pays. Tamam. Et plus que ça, ce genre de cours qui porte sur le mariage, il concerne tout le monde. Il concerne tout le monde car le mariage, c'est l'asl. C'est la base. Et comme on l'a répété la semaine dernière, même celui qui n'est pas encore marié, il en a besoin. Il en a besoin. Bel. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Talab al-ilm fariḍa 'ala kulli muslim. Bima'na yanbaghi an yakuna al-muslim 'ala ilm qabla an yataqaddam fi 'ibadatin min 'ibadatillah. Le prophète, sallam, il nous dit, il est obligatoire pour chaque musulman d'apprendre la science. Quand il dit ça, le prophète, sallam, ça ne veut pas dire que tu dois apprendre toutes les sciences. Mais ça veut dire que tu dois apprendre tout ce que tu dois connaître pour accomplir les adorations qui te sont soit obligatoires, soit recommandées, avant de les accomplir. Donc ça veut dire qu'en vérité, étant donné que le mariage est un point de passage, une sunnah mu'akkada, hein, une sunnah fortement recommandée. Ya ma'ashar al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ou fil hadith al-akhar, man raghiba 'an sunnati falaysa minni. Dans ces deux hadiths, il enjoint fortement sa communauté à ne pas retarder le mariage et à se marier. Dans l'autre hadith, il dit celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de moi. Et on a vu que fait partie des grands péchés, hein, l'une des définitions des grands péchés, c'est toute œuvre qui, dans laquelle il y a une sentence venant d'Allah Azzawajal, ou qui attire la colère d'Allah Azzawajal, ou qui attire même le désaveu du prophète alayhi salatu wasalam. Si le prophète alayhi salatu wasalam se désavoue de toi pour une œuvre quelconque, sache que cette œuvre-là est un grand péché. Donc le fait de délaisser le mariage avec le besoin, en étant dans un besoin de celui-ci, c'est formellement interdit. C'est formellement. Donc c'est un point de passage. Et celui qui rentre dans le mariage ma'a l'ilm, il ne sera jamais comparable à celui qui rentre bidoune. Il ne sera jamais comparable à celui qui rentre sans la moindre connaissance. فمثل هذه الدروس مهمة أراها مهمة ونسأل الله يوفق الجميع طيب إذن قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع آنس من حلي آنس من حلي Mon mari, dit enfin la onzième, c'est Abu Zar'a. Quel grand homme qu'Abu Zar'a. Il a chargé mes oreilles de bijoux. Donc là, Umu Zar'a, elle parle en empruntant une rhétorique qui va dans le même sens que la précédente, la dixième, hein, qui a commencé en disant mon mari Malik, et qui te dira qui est Malik, hein. Et elle dit Abu Zar. D'ailleurs les Arabes, il faut le savoir, ils apprécient le fait d'être appelés par leur kunya. Le fait de Abu Fulan, Abu Antel, ça c'est la kunya. C'est une chose honorable. Quand tu veux honorer une personne, tu l'appelles par sa kunya. Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdurrahman, Ya Aba Muhammad. Donc là, pour honorer son mari, elle dit Abu Zar'a. Ensuite, elle évoque qu'il a chargé ses oreilles de bijoux. Donc là, on va vraiment voir les caractéristiques recommandées chez un homme, chez un mari. Donc là, quand il dit « il a chargé mes oreilles de bijoux », c'est pour celui qui a les moyens. Et ça montre que il avait les moyens. Et que « Hada rajulun kerim » et cette partie nous montre également que Abu Dhar était quelqu'un de très généreux envers son épouse. Ma qalat yani ishtara li huliyan ou mala shay'an wahidan ala udhunay. Qalat anasa min huliyin udhunay. Elle n'a pas dit qu'il m'a acheté une boucle d'oreille ou deux, enfin une paire de boucles d'oreilles. Elle a dit qu'il m'a acheté ou qu'il m'a offert ou qu'il a chargé plutôt mes oreilles de bijoux. Ça veut dire qu'il a multiplié les cadeaux. Multiplié les cadeaux madame, à tel point qu'il a chargé les oreilles de bijoux de son épouse. Et qu'on voit aussi là, ce passage-là, combien les femmes aiment les bijoux. فَالَّذِي يُرِيدَ أَنْ يُكْرِمَ أَهْلَهُ فَبِالْحُلِيِّ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ. Celui qui veut honorer son épouse, qu'il le fasse par des bijoux, c'est ce qui est recommandé par ce genre de hadith. Et d'autres encore. Non. وفي رواية فرعية
وأذنيه. Et dans une autre version de ce hadith, ce passage, elle dit, il a chargé mes mains et mes oreilles. Hein? Mes mains et mes oreilles. C'est-à-dire des bijoux. وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِي فَبَجَّحَتْ إِلَيَّ نَفْسِ. Ensuite elle dit, il a engraissé mes membres. C'est-à-dire, il a engraissé mon corps. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Yahweh? Qu'elle mange bien. Voilà, qu'elle mange bien. Qu'il veillait à ce qu'elle mange bien. Qu'il veillait à ce qu'elle mange bien. Ensuite, elle dit, il m'a valorisé et voilà que mon âme a pour moi pris de la valeur. Voilà, ça, c'est important, Yahweh. Très très important. يعني أن تشعر الزوجة أنها عندك مكرمة معززة. C'est très très important dans un couple que l'épouse se sente valorisée, qu'elle sente qu'elle est auprès de toi honorée. Certains y traduisent ce passage-là en disant il m'a rempli de joie et mon âme fut ravie. C'est correct, mais ce n'est pas vraiment le sens voulu ici. فَبَجَّحَنِي فَبَجَّحَتْ إِلَيَّ نَفْسِ. وَالتَّبَجُّح, c'est l'iftikhar. Hein? نعم. وَهُنَاكَ رِوَيَاتُ أُخْرَى. ثُمَّ قَالَتْ وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةِ بِشِقٍ. Il m'a trouvé parmi les miens et leurs quelques moutons au flanc d'une montagne. Il m'a trouvé parmi les miens et leurs quelques moutons au flanc d'une montagne. Qu'est-ce que vous comprenez de ce passage-là? Il m'a trouvé parmi les miens, hein, au milieu de et leurs quelques moutons au flanc d'une montagne. Ah,
right. Dans une famille pauvre.
Dans une famille pauvre, Hassan.
Dans un milieu pauvre
ou modeste. Dans un milieu pauvre ou modeste. Regardez, Juan, Al-Fa'ida Al-Jalila. Umm Zara, c'est la seule des 11 femmes qui nous laisse paraître qu'elle était d'un milieu modeste. Et regardez comment elle va remercier son mari sur le ma'rouf qu'il va lui faire. Et vous allez voir que ça a une grande part, le milieu social d'où provient la femme. Là, on voit que de toutes ces femmes-là, c'est peut-être celle qui venait du milieu le plus modeste. Mais c'est celle que l'histoire et la sunna a retenue. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout naturellement remercié son mari sur les bienfaits qu'elle a pu voir de lui. Et elle a remercié d'un remerciement qui est bien plus éloquent, bien plus élevé que le remerciement des précédentes femmes. Et ça, c'est vraiment une faïda. Jamila. Ou taraha ru'yat ayn. Ba'd al-ikhwa, lamma yatazawaju fil bilad, tajid an al-mar'a التي عاشت المر من الحياة إذا صارت عند زوجها كالملكة فتعترف بفضله وتصبر على إعواجه وربما تكتمه. C'est une réalité. En général, hein, les gens qui se marient, que ce soit au bled ou ailleurs, mais de familles plus ou moins modestes, surtout si eux, ils ont un peu de... Il y a une situation sociale un peu plus élevée. En général, la femme reconnaît leur mérite. En général, la femme reconnaît leur mérite et les remercie pour cela. La femme les remercie ou remercie son mari pour cela. Wallah al-musta'an. Qala, fa ja'alani fi ahli sahilin ou sahil. فجعلني في أهلي صهيل وأطيط ودياس ومنق. Ensuite elle poursuit, elle dit, il m'a conduit parmi les siens, là où on entend les hennissements de chevaux et le bruit des chameaux, ou là où on voit battre le blé et où on tamisse le grain. Non. Donc là, tout simplement, elle veut dire qu'elle a changé totalement de situation. Elle était dans une situation modeste. Et là, voilà qu'elle se retrouve au milieu des chameaux et des chevaux. والعرب كانوا يمدحون أهل الخيول والإبل. Les Arabes, ils avaient pour habitude de respecter les propriétaires de chevaux et de chameaux. Il a yomina hada, c'est un signe de puissance, un signe d'honorabilité que d'avoir des chameaux, que d'avoir des chevaux. D'ailleurs, vous savez que les meilleurs chevaux et chameaux du monde sont les chevaux arabes. Voilà. Et les Asaf, ils n'avaient pas pour habitude de valoriser les détenteurs de brebis ou de procès. C'était chez Yanni Adi. En même temps. قالت فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأقتمح فأتقمح وأشرب فأتقمح. طيب وهذا كذلك لإكرامه إياها وميله إليها وعزتها عنده وهذا مما يدل على العزة. Là, elle dit, quand je parle auprès de lui, je ne suis guère méprisé ou insulté. Je dors jusqu'au matin et je bois à satiété. Quand je parle auprès de lui, je ne suis guère méprisé ou insulté. Ça, Yahyaouane, c'est un passage, on va le voir avec l'explication de Qadi Riyad d'une manière complète, bi'nillahi azza wa jal, mais c'est un passage très important. Elle parle auprès de lui et elle n'est pas méprisée. Ça veut dire sa parole, il l'accepte. Si c'est un conseil, il le prend. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana hakadha. Ama tarawna annahu sami'a min Aisha hadha al-hadith at-tawil. مع أنه مشغول البال لله وليوم الآخر ومشغول البال بالحروب ومشغول البال يعني أمور الصحابة والصحابيات ومع ذلك إذا تكلمت جلس معها واستمع ما عندها. رياض الحديث لمن لحديث عائشة للبروفيت صلى الله عليه وسلم il écoute d'elle selon rapport, selon hadith de ces 11 femmes. Il écoute sans jamais l'interrompre, alors qu'il est occupé jour et nuit à penser à Allah Azza wa Jalla, à penser au jour du jugement dernier. Hein? Il est occupé jour et nuit à penser aux différentes guerres qu'il doit mener. Il est occupé jour et nuit à penser à la situation de ses compagnons, les différents problèmes qu'ils peuvent connaître ou autres. Malgré tout, sa femme, elle parle, il s'assoit avec elle, il l'écoute. وهذه أم سلمة لما نصحته في صلح الحديبية بأن يلحق رأسه. Et أم سلمة, vous connaissez l'histoire lors du صلح de الحديبية, quand le prophète sallam a contracté un pacte avec les koufars de Quraysh, et dans le pacte il a validé le fait qu'il ne fasse pas la Umrah en séjour, mais qu'il la fasse pour l'année prochaine, et il a validé également que si des musulmans, des croyants viennent se rendre à la Médine, il les renvoie. Il les renvoie à leur famille à la Mecque. Les croyants, quand ils sont revenus avec ce pacte-là, ça leur a fait mal. Ils étaient sous, comme si on peut dire, sous anesthésie. Ils n'ont pas compris, pour certains. Et quand le prophète, alayhi salatu wasalam, il leur a demandé de raser leur tête, hein, pour accomplir l'un des rituels de la Umra, ils n'ont pas été réactifs directement. C'est là que Umm Salama, elle a conseillé le prophète, alayhi salatu wasalam, de lui raser sa tête. Quand ils vont devoir raser ta tête, ça va les faire réagir. C'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait. Les savants, ils prennent de ce hadith-là comme quoi il convient à l'homme d'écouter sa femme quand elle a un conseil à dire. Mais en vérité, Juan Sala, c'est un dalala tuhub wal mail ilayha wa annaha aziza inda. En fait, ça, c'est une marque d'affection de Abu Zar. Que lorsque sa femme elle parle, il ne la méprise pas. Il écoute sa parole. Et ni il ne l'insulte. En vérité, c'est, il n'y a que quelqu'un qui aime son épouse et qui la considère, qui lui donne vraiment de la valeur, qui la considère comme étant honorable, qui arrive à ce genre de comportement excellent. On rappelle que tout ce qu'on voit là dans ce hadith-là, on peut le considérer comme faisant partie de la sunna. Sunna, annak tasma' min ahlik. Pourquoi on peut le considérer comme faisant partie de la sunna? Ce genre, les comportements d'Abu Dhar, pourquoi on peut les considérer comme faisant partie de la sunna? Abdin al-Nasiha, Saint. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a validé ces comportements-là en disant je suis pour toi comme pour Abu Dhar. Et on voit, il y a un comportement que Abu Dhar a eu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas validé. On va voir, inchallah, si on a le temps. Taïb. قالت وأم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. Ensuite elle continue, elle dit et la mère de Abu Zar. Tout d'abord, j'ai oublié d'annoter un truc là au sujet de lorsqu'elle dit qu'elle boit jusqu'au matin. Lorsqu'elle dit qu'elle dort jusqu'au matin, qu'est-ce que ça signifie, ça, Yahya? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Parce que dormir jusqu'au matin, c'est pas forcément gratifiant.
Qu'elle est apaisée?
Non. Qu'elle dort jusqu'au matin.
Elle dort sans problème.
Qu'elle dort sans problème. Ah.
C'est une kinaya par rapport à la richesse, non?
Par rapport à la richesse, mais quoi encore? Hassan et Jarabal.
Le fait que quelqu'un
le sert, non? Aïe, Darak. Ça veut dire que normalement, la femme, pour qu'elle dorme, elle fasse la grasse matinée, ça veut dire qu'elle n'a pas de responsabilité, elle n'a pas de tâche à surveiller. Et en général, la seule femme qui n'a pas de tâche à surveiller, c'est celle qui a une servante, une domestique, qui s'en occupe. Donc c'est ça qui est visé par là, par cette partie-là. C'est-à-dire qu'elle dort parce qu'elle n'a pas besoin de se lever tôt, comme d'autres, ou comme la majorité des femmes, pour soit s'occuper des enfants ou soit s'occuper du mari ou de la maison. Ça aussi, c'est un fadl, c'est un mérite. Taïb. Est-ce que là, Yahwan, Yahani, Mas'ala, Yahalid, si tu es marié, tu vois que ta femme se fatigue, est-ce que tu peux lui prendre une domestique? Ça coûte combien une domestique en France ici? Hein? Allah a'lam. Ah, est-ce que tu as le droit?
Allah
a'lam. Allah a'lam. Ah, Mohamed.
Allah
a'lam. Ah. Abba Abdel.
Ça dépend.
Ça dépend? Ça dépend de quoi? Ça, c'est un hadith. Il est mohkam, tout le bas.
Ça dépend. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'elle a fait en fait comme
Ça dépend qu'est-ce qu'elle va faire comme travail. En tout cas, le fait de prendre une domestique, c'est pas haram. Là, on a un hadith sous les yeux. C'est pas haram. Cependant, comme l'évoque Cheikh Al Uthaymeen et d'autres, ils vont te dire ça, c'est seulement s'il y a un besoin. Seulement s'il y a un besoin. Parce que s'il n'y a pas vraiment de besoin, ça rentre dans ida'at al-mal. Ça rentre dans du gaspillage. Et quand on dit s'il y a un besoin, ça veut dire que ce que tu vas lui donner comme salaire à ce domestique ou à cette domestique, il ne faut pas que ça prévaut sur des adorations que toi tu vas faire, comme la hijra, comme le hajj, comme la umrah, parce que la umrah aussi c'est une obligation de faire la umrah une fois dans la vie. Hein? Hajj et umrah, c'est une obligation pour celui qui a la possibilité. Donc le fait de prendre le domestique, c'est permis, mais selon le besoin. Et en respectant les conditions. Parmi les conditions, les conditions qu'il y a pour prendre une domestique, qui n'est pas d'irtilat, qu'on ne craigne pas de fitna. Si c'est un domestique homme, qu'on ne craigne pas de fitna pour les femmes du foyer, et si c'est une femme, qu'on ne craigne pas de fitna pour les hommes du foyer. Pas d'irtilat, qu'il n'y ait pas de mixité, qu'il n'y ait pas de khulwa, qui mala kadalik, faire attention à ce qu'elle peut enseigner aux enfants. Pas mal de shurut que les savants ils évoquent, et en général c'est pour, en vue de ces shurut là qu'ils déconseillent si il n'y a pas vraiment de besoin. Maintenant, s'il y a un besoin, la femme est extrêmement fatiguée ou elle est malade ou autre, fala haraj. Fala haraj. Allah ta'ala.
Pourquoi homme? J'ai pas compris pourquoi un domestique homme. Si c'est un travail pour aider la femme, pourquoi un homme les autorise?
Un domestique, les domestiques.
Le servant, ça peut être un homme.
Ouais.
Si c'est pour aider ta femme que tu laisses à la maison, pourquoi ils ont autorisé un homme? J'ai pas.
Mais non, en fait, c'est ça, en fait, que ce soit un homme ou une femme. Que ce soit un domestique homme ou femme, t'as le droit d'en avoir un, mais il ne faut pas qu'il y ait de khulwa, il ne faut pas qu'il voie ta femme, il ne faut pas que toi, si c'est une femme, tu puisses la voir. Il y a plein de, tu vois, plein de shurut. Il faut que si c'est une femme, qu'elle soit mastoura, qu'elle porte le hijab, jilbab, il y a plein de shurut. Ensuite, là, elle va exceller encore plus dans le remerciement. Parce que là, elle quitte le fait d'évoquer élogieusement son mari. Là, elle parle de la mère de son mari. Et là, c'est encore un autre degré. Hein? Là, en fait, au début, elle pouvait être comparable avec la dixième qui parlait de Malik. Mais là, en évoquant la mère de Abu Zara, là, ça y est, elle a dépassé toutes les précédentes en termes d'éloge. C'est-à-dire là, elle parle maintenant de la mère de son mari. Et ça, c'est un tawfiq min Allah Azza wa Jal. La relation belle-mère, belle-fille, c'est des relations qui, bien souvent, sont conflictuelles. Bien souvent, sont conflictuelles. Mais lorsqu'on a une femme comme elle, comme cette femme-là, Oum Zara, qui remercie Al Qalil ou Al Kathir, Fandro, il a une Sarat Hadi. Zurwa, Fishukr. Ça, c'est vraiment les sommets du remerciement, ce qu'on voit de Oum Zara. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a bien rendu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a bien rendu. Sur les 11 femmes, c'est sa parole qui perdure jusqu'à nos jours comme faisant partie intégrante de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et le hadith lui-même, il a pris son nom. يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Si Allah subhanahu wa ta'ala sait que dans vos cœurs il y a du bien, il vous donnera du bien. لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسِ. Ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Donc là, elle dit, la mère d'Abu Zar, pourrait-on assez la décrire? Ses marmites sont chargées et sa maison est spacieuse. وَزَادَ بَعْدَهُمْ فِنَاؤُهَا فِيَحْ. Sa cour est spacieuse. Donc là, elle fait l'éloge de la mère d'Abu Zar en parlant de ses marmites. Ses marmites sont chargées. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Elle fait beaucoup à manger.
Elle fait beaucoup à manger. Mais encore.
Elle fait beaucoup d'aumônes.
Beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, elle fait à manger, mais ce n'est pas que pour les gens de son foyer, c'est pour donner. C'est pour donner. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, tu trouves beaucoup de mamans qui sont sur ce wasf-là. Il y en a, elles envoient des sous au fil bilad, kul les shahar, pour les fuqara, les masakin. Voilà, yartelifna andalik, patata, sans jamais tergiverser sur un envoi. Ça fait peut-être des années qu'elles sont en France et qu'elles font ça. Elles envoient chaque mois un peu d'argent pour les pauvres dans leur pays d'origine. Qala, donc là, elle a évoqué la mère de Abu Zar, et là, elle dit Ibn Abi Zar, Fama Ibn Abi Zar. مضجعه كمسل شطبة يشبعه ذراع الجفرة. Le fils de Abu Zar, et quel fils est-il? Son lit est mince comme la tige d'une palme brandie, l'épaule d'une chevrette le rassasie. L'épaule d'une chevrette le rassasie. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Abdallah? Elle dit, son lit est mince comme la tige d'une palme brandie. Son lit est mince comme la tige d'une palme brandie. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Il se suffit de peu.
Ça, on va le prendre de la deuxième partie. L'épaule d'une chevrette le rassasie.
Il est maigre.
Il est très mince. Le fils de Abu Dhab est très mince. C'est-à-dire que quand elle décrit son lit comme étant comparable à un fil de palme, c'est pour dire qu'il n'est pas, charnu. Il n'a pas le corps charnu. Il est très fin. Et paradoxalement, les Arabes avaient pour l'habitude de valoriser et de faire l'éloge de ceux qui sont fins. Attention, ça ne veut pas dire anorexique. On parle de faim, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de graisse. Voilà, qui n'a pas de graisse. Pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement élogieux. Et c'est pourquoi elle continue en disant qu'il se suffit d'une chevrette, de l'épaule d'une chevrette.
وَبِنْتِ أَبِي زَرْعَ. فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها.
Ensuite elle continue, elle dit, et la fille de Abu Zar, obéissante à ses pères et mères. La fille de Abu Zar, elle est obéissante à ses pères et mères. وفي رواية
زين أبيها وزين أمها.
Et dans une version, il est dit que la fille d'Abu Zar, elle veut dire que la fille d'Abu Zar, c'est la beauté de son père et la beauté de sa mère. Il n'y a pas d'éloge plus beau que lorsque tu vantes la personne puis ses proches. Tu parles de sa mère, tu parles de... Il n'y a pas quelqu'un, et ça c'est une faïda, c'est... Parce que ce dars-là, c'est aussi une leçon pour les sœurs. C'est un adab nabil. Ça, c'est vraiment un comportement rafi', extrêmement élevé de Umm Zahra, qui parle et qui fait l'éloge des proches du mari. C'est très important que la femme donne de la valeur, tout comme l'homme. C'est très important qu'il donne de la valeur aux proches et qu'il ferme les yeux réciproquement sur les défauts et sur certaines déficiences qu'il pourrait voir des proches. Là, c'est Umm Zahra qui parle tout au long de sa période de mariage. C'est sûr qu'elle a dû voir des hauts et des bas, mais elle ne retient que les hauts. Elle n'évoque dans ce hadith-là que les bonnes choses. Donc on continue dans l'évocation de la fille de Abiza. وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغِيظُ جَارَتِهَا. Et elle nous dit, au sujet de la fille d'Abu Zar, elle remplit son vêtement de son corps et rend jalouse sa coépouse. Il y en a, ils l'ont traduit par coépouse, il y en a, ils l'ont traduit par sa voisine. Et on verra dans l'explication qu'il s'agit de sa coépouse. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire par elle remplit son vêtement de son corps? Ah.
Elle
n'est
pas maigre.
Aïe, qu'elle n'est pas maigre. Qu'elle est charnue. Yes.
C'est ses enfants aussi, hein, nous avons
oui, on parle de ses enfants également. C'est-à-dire là, elle, et ça aussi encore, jazakallahu khairan, c'est encore une autre forme d'éloge. C'est-à-dire que elle affilie ses enfants, elle fait l'éloge, elle affilie ses enfants qu'elle a d'Abu Zahra, elle les affilie à lui. Hein? Ça aussi c'est une manière, c'est une rhétorique extrêmement élogieuse pour son mari, pour vanter ses mérites, comme si c'est à lui le mérite dans ses enfants, à lui le mérite tout entier. Or ils sont deux, bilashak, lakin elle délaisse son haq pour faire l'éloge de son Marie, subhanallah. Donc ensuite elle dit que elle décrit la fille de Abu Zahra en disant qu'elle est charnue. Et ça c'est un défaut, c'est un compliment. C'est un compliment. Alors retenez ça, ya ikhwan. Al arab yamdahuna ar-rijal idha kanu nahifin. والنساء إذا كان لهن شيء من اللحم. ها سبحان الله. Les Arabes, ils avaient pour habitude de vanter l'homme qui est mince et de faire l'éloge de la femme qui est en chair. طيب. ولا ذواق تختلف ولا شك. Et bien sûr les goûts et les couleurs divergent de peuple en peuple. لكن جعل الله عز وجل فطرتهم على احسن ما يقام في الارض. Cependant Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les mœurs arabiques sont les plus correctes qu'il y ait sur terre. Et bien sûr quand on parle de charnu, c'est sans exagération. Quand on parle d'un homme mince, c'est sans exagération. On ne parle pas d'anorexique et on ne parle pas de... Quand on parle d'une femme charnue, on ne parle pas d'obèse. Là, ça, il le déteste. Il déteste formellement. Mais on parle d'une femme en chair yani, avec un peu de rondeur. Là. Et elle rend jalouse sa coépouse. Là. Donc, on comprend qu'il s'agit là d'une grande fille et qu'elle a une coépouse et qu'elle la rend jalouse. Fahakadaya ya ikhwan. le yani al-ghayra al-ghayra bayna an-nisa amrun la budda minhu. La jalousie entre co-épouses, c'est une affaire qui la nuit des temps. C'est comme ça, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Wa khassatan fima yata'allaqu bi al-awsaf al-jasadiyya wa kadhalika al-khuluqiyya aw ad-diniyya. Ces jalousies-là, bien souvent, elles portent sur le physique, ou sur les comportements, ou sur la religion. Non. Wallah al-musta'an. Donc là, elle a fait l'éloge de sa fille, la fille qu'elle a avec Abu Zar, par cela. Ensuite, elle dit Wajariyatu Abi Zar. لا تبث حديثنا تشبيثا. Ensuite elle dit quelle servante que la servante d'Abu Zar, elle ne divulgue pas nos propos. Kedalik, ça c'est aussi une des caractéristiques recommandées chez les domestiques. Wallah al-musta'an. Wa la taghuthu ta'amana wa takhthithana wa tamla'u baytana takhshishan. Elle ne dilapide pas nos provisions et n'accumule point les balayures dans notre maison. Hunak riwayat ukhra وأخر في هذا الموضع ما عندنا وقت حتى نقرأها يعني فيما يتعلق بضيف أبي زرع وماله وما إلى ذلك إن شاء الله سيأتي في وقت آخر. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. Donc là il y a d'autres versions à ce niveau là il y a d'autres versions du hadith, on les prendra إن شاء الله lorsqu'on va rentrer en profondeur dans l'explication, là on n'a pas le temps de les voir. Parce qu'elle évoque aussi l'invité de Abu Zar, elle évoque aussi l'argent de Abu Zar. Tout ça, on le verra une prochaine fois lorsqu'on rentrera dans l'explication en profondeur. Ensuite, elle dit, puis Umuzar ajouta, Abu Zar sortit alors qu'on battait les outres allées pour faire du beurre. C'est-à-dire, il est sorti de bon matin. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان تحت خصرها برمانتين. Ensuite elle dit il rencontra une femme avec deux enfants, c'est-à-dire au moment où il est parti de bonne heure, il rencontra une femme sur sa route qui avait deux enfants tels des guépards. Qu'est-ce qu'elle veut dire en disant deux enfants tels des guépards? Hein? Turbulent, oui. Mais encore. Quand tu vois un guépard, qu'est-ce qui t'inspire le guépard? El khouf. La beauté. Un guépard, c'est beau. Hein? En fait, là, quand elle parle de ces enfants-là, elle les qualifie par les. Par cette caractéristique où elle les compare à des guépards pour leur beauté. Non. Et elle dit qu'il jouait sous ses hanches avec deux grenades. Ça aussi, pareil, on va voir qu'il y a beaucoup d'explications sur le sujet. Ensuite, elle dit فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا. Et ensuite, Muzar, elle dit il m'a divorcé et il l'a marié. Il m'a divorcé, il l'a marié. Donc là, déjà, regardez la faïda azima. Toutes ces paroles-là qu'elle dit au Muzar, elle parle de Abu Zar, et elle fait son éloge. Un éloge qui est incroyable. Malgré tout, il l'a divorcé. Subhanallah. Malgré tout, il l'a divorcé. Et elle parle de lui comme ça, après avoir été divorcé. Voilà, ça c'est un dars lil jami'a. Rijalan wa nisa'an. ولا تنسوا الفضل بينكم
Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'oubliez pas les bienfaits qu'il y a eu entre vous. Ça, c'est après le divorce. En général, une fois qu'on a divorcé, khalas, les deux couples, en général, après avoir divorcé, chacun il lance sa langue sur le conjoint. Là, Muzar al Danandars, il a vu une femme avec deux beaux garçons. Il l'a divorcée pour marier cette femme-là. Taïbi et Juan, il l'a divorcé direct. Hein, Jaafar. Tout se passait bien entre eux, du moins. Zahir al-Hadith, tout se passait bien. Mais il l'a divorcé. Taïbi, il l'a divorcé pourquoi?
Muzar a dû être pris de jalousie, ça l'a énervé, après il l'a divorcé.
Muzar, elle a été pris de jalousie, ça l'a énervé, et il l'a divorcé. Ah.
Parce qu'il voulait en faire sa co-épouse,
elle a... Parce qu'il voulait en faire sa co-épouse, elle a pas... Ça s'est disputé. Asab Thomas, vous avez vu juste. En fait, il l'a marié en deuxième. Comme on va le voir, Inch'Allah, en profondeur. Il a marié cette femme-là qu'il a rencontrée en deuxième. Mais c'est cette femme-là qui n'a eu de cesse de se plaindre pour pousser Abu Zar de divorcer de sa première épouse. Et ça va être mentionné dans certaines versions du hadith. Ça va? Donc, voilà cette histoire-là. Elle n'est pas finie, on la terminera, Inch'Allah, en ce qui concerne le hadith, on terminera la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette femme-là, malgré qu'elle a vécu avec lui ce qu'elle n'a jamais vécu avec un autre homme, قدر الله أن يحصل بينهما الفراق. Allah, il a décrété qu'il y ait une séparation entre eux. Et là, on voit, et on croit encore une fois, que la femme, même si elle a des enfants, elle est toujours désirable. Elle est toujours désirable. Ça, c'est un homme sharif. C'est un homme honorable. Et vous voyez, avec l'évocation de sa femme Muzar, combien ses mérites sont grands. Malgré tout, il a vu une femme avec deux enfants, ça n'a pas freiné. Ça l'a pas freiné, au contraire, ça a été une cause, comme on le verra dans l'explication, ça a été une cause qu'il s'avance vers elle et qu'il demande sa main. Non. طيب طلاقها
تفضل سيت اكتو لا كي البروفيتور سيسالو لا طون
احسنت يا خالد احسنت سيت اكتو لا كي البروفيت صلى الله عليه وسلم نا با ابروفي فهمتو كومون لو سي باسكو بلو تار اون فيرا دون الحديث كيل ديرا جو سوي بور توا سو كو ابو زرع ايتي بور ام زرع سوف كو موي جيتي با طلاق سوف كو موي جيتي با ديفورسي. Et dans ces paroles-là du prophète, alayhi salatu wassalam, on prendra comme leçon à tirer que lorsque l'homme il est avec une femme qui est chaste, une femme qui est pieuse, il s'éloigne du divorce. Il s'éloigne du divorce. Je suis pour toi comme était Abu Zara pour Umu Zara, sauf que moi, je n'ai pas de divorce. Je ne t'ai pas divorcé. Donc ça, c'est la seule erreur de parcours, on va dire, de Abu Zara. Évoqué dans ce hadith-là, et Inch'Allah, on terminera le hadith la semaine prochaine. Bi'inillahi azza wa jalla, naktafi bi'hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.